Mais lorsque Céphas est venu à Antioche, je me suis opposée à lui ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur venue, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres juifs aussi sont entrés dans ce jeu, au point que Barnabé lui-même s'est laissé entraîner par leur double jeu. Quand j'ai vu qu'il ne marchait pas droit au regard de la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Céphas devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des non-juifs, et non à la manière des juifs, comment peux-tu contraindre les non-juifs à adopter les coutumes juives ?» Nous, nous sommes juifs de naissance, nous ne sommes pas de ces pécheurs de non-juifs. Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ, nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, afin d'être justifiés en vertu de la foi du Christ et non pas des œuvres de la loi. Car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être justifié dans le Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, le Christ serait alors serviteur du péché ? Jamais de la vie. Si je reconstruis ce que j'ai détruit, je montre que je suis un transgresseur. En effet, par la loi, je suis moi-même mort pour la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien.
Le flashback, c'est un procédé. Ça commence bien, plus de mots. Un procédé qu'on utilise dans les films. Généralement, il est utilisé pour nous aider à comprendre le présent dans un récit. On retourne en arrière pour comprendre le présent. Un exemple de cela, c'est par exemple le film « Il faut sauver le soldat Ryan ». On va en reparler tout à l'heure. Mais ce film-là commence avec un vieil homme qui est dans le cimetière en Normandie, un cimetière américain qui marche là, sa famille le suit, et à un moment donné, il s'effondre au milieu des tombes, il commence à pleurer, et par la suite, on le trouve en particulier devant une tombe qui rappelle toutes sortes de souvenirs, et c'est là qu'on fait un flashback, un retour en arrière de 50 ans pour se retrouver au moment du débarquement. L'apôtre Paul, en quelque sorte, utilise le flashback dans sa lettre. Il a commencé sa lettre en parlant d'une problématique qu'on trouve dans ces églises de Galatie. Certaines personnes, on les a surnommées les judaïsants, sont venues après lui pour dire qu'il fallait non pas simplement croire en Jésus, tout le monde est d'accord là-dessus, croire en sa mort, etc., mais qu'il fallait aussi accomplir la loi de Moïse, et en particulier la loi de la circoncision pour les hommes, les lois alimentaires, les lois sur les jours en particulier. Et dans le texte qu'on a lu en introduction, on voit un retour en arrière. L'apôtre Paul, dans son écrit, voit la nécessité de revenir en arrière sur cette situation qui le concerne lui, Pierre, l'apôtre Pierre, mais aussi toutes les églises. On va voir ce qui s'est passé a des implications pour tous les croyants. Et ça devrait en avoir pour nous aussi si nous sommes croyants ce soir. Et même si on n'était pas croyant ce soir, c'est pas exactement si on l'est ou pas, ce qui va être lu et médité ce soir devrait être utile. L'apôtre Paul rappelle une situation qui s'est déroulée à Antioche. Qu'est-ce qui s'est passé à Antioche ? Qu'est-ce qui s'est passé à Antioche ? Qu'est-ce qui a pu pousser Paul à avoir un débat ouvert avec l'apôtre Pierre ? Vous imaginez un peu la scène ? Je suis en train de parler ou je termine ma prédication et Matthieu, qui est au fond, se lève et ouvertement me contredit dans ce que j'ai dit. Ou alors tout à l'heure, pendant le repas, saisit l'occasion alors que tout le monde est rassemblé pour un conflit ouvert. Il ne s'agit pas d'un conflit de personne. Non, il affirme le faire parce qu'au cœur, il y a l'évangile, la centralité du message. Alors qu'est-ce qui pousse l'apôtre Paul à en arriver là, avec Pierre? Qu'est-ce que Pierre a fait de si grave? Jusqu'à l'arrivée de plusieurs personnes de Jérusalem, Pierre mangeait avec des chrétiens d'origine non-juive. Ça peut paraître insignifiant, mais on le voit par d'autres écrits dans le Nouveau Testament. c'était quelque chose qui était difficile à envisager pour des personnes d'arrière-plan juif. On le voit par exemple dans Actes 10, Dieu a permis, le Seigneur a permis à Pierre de voir ce pas à franchir. Ce n'était pas facile à franchir, ni pour lui, ni pour toute l'Église à Jérusalem. Manger des aliments qui étaient considérés jusque-là comme impurs, être en la présence de personnes d'origine païenne, tout cela, ça paraissait difficile. Et pourtant, ce pas était fait. Mais ce qui se passe avec l'arrivée de ces personnes de Jérusalem, semble-t-il des croyants d'origine juive, eh bien, ils se séparent pour désormais manger avec des chrétiens d'origine juive uniquement. Et l'apôtre Paul décrit cela comme de l'hypocrisie, un double jeu. Double jeu dans lequel Barnabas, lui aussi, se laisse entraîner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui pousse Pierre à changer d'attitude? Certains pensent que, en fait, simplement la leçon qu'il avait dû entendre, recevoir, qu'on voit dans le livre des Actes avec Corneille, il n'a pas vraiment apprise. Pourtant, on se dit, le plus dur était passé, c'était un centenier romain, et il a dû s'expliquer devant tous. D'autres pensent que c'est plutôt une autre raison qui l'a poussé à changer. Peut-être la nouvelle de persécution forte à Jérusalem, où le discours de ces personnes qui viennent de Jérusalem serait « Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour apaiser un peu les tensions que nous, on vit là-bas » Revenir un peu à des choses qui seraient moins choquantes pour les Juifs à Jérusalem. C'est peut-être cela. Difficile de dire avec certitude puisqu'on n'a pas tous les éléments. Mais l'apôtre Paul, en tout cas, voit derrière cet élément qui semble trivial, quelque chose de grave au point d'intervenir contre Pierre devant tous. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Eh bien, c'est grave pour lui de créer comme une division dans l'Église entre des chrétiens qui seraient d'origine juive et des chrétiens d'origine non-juive. C'est menacer l'unité de l'Église. Mais pire que cela, c'est aussi dire que ce que Christ a fait pour les chrétiens d'origine non-juive, ça ne suffit pas. Pour passer au niveau supérieur, être chrétien d'origine juive, il manque quelque chose à l'œuvre de Christ. Et ça, pour l'apôtre Paul, c'est inacceptable, intolérable. Et c'est pour cela qu'il intervient. Et pour communiquer cela, il utilise cette expression « ce n'était pas marcher droit selon la vérité de l'Évangile ». On va résumer notre passage de la façon suivante. Nous sommes justifiés devant Dieu par la foi en Jésus et non par les œuvres. C'est une mort à ses principes et une vie en Jésus qui en découle. On va se poser deux questions sur la base de ce texte. Comment être justifié devant Dieu? Les versets 15 à 16. Et à quoi ressemble la vie quand on est justifié par Jésus? Justifié. C'est la première fois que le terme se trouve dans cette lettre, et pourtant il a son importance. Dans le texte déjà, on voit qu'il est cité, il est utilisé à 4 reprises. Et pas simplement dans le texte, dans l'histoire. Martin Luther, le grand réformateur, a dit « C'est la vérité au sujet de la justification par la foi en Jésus. C'est la vérité par excellence de l'Évangile. C'est aussi l'article principal de toute la doctrine chrétienne dont découle la connaissance de toute la piété. » Comment comprendre ce terme « justifié » ? J'ai parlé de ce film tout à l'heure, de « Il faut sauver le soldat Ryan ». Si on passait à la scène finale, quelques petites choses qui se passaient entre, mais on arrive à la fin du film. Et la dernière scène, au passé, c'est la mort d'un capitaine qui, en fait, dit ses paroles au soldat Ryan, dont il a sauvé la vie. Il va mourir. D'autres sont morts pour sauver la vie à ce soldat. Et voici ce qu'il lui dit. Mérite-le. Mérite-le. On revient au présent. Cet homme, 50 ans plus tard, se retrouve devant la tombe de ce capitaine. Et il s'adresse à lui pour lui dire, tous les jours, je repense à ce que vous m'avez dit ce jour-là, sur le pont. J'ai essayé de vivre ma vie de la meilleure façon que j'ai pu. J'espère que c'était suffisant. J'espère qu'au moins à vos yeux, j'ai mérité tout ce que vous avez fait pour moi. Sa femme s'approche de lui et il lui pose la question à elle. « Dis-moi que j'ai vécu une bonne vie. » « Quoi ?» elle répond. « Dis-moi que je suis un homme bien. » Et elle répond, « Tu l'es. » Même si la définition de la justification doit s'approfondir, on peut dire ici que la justification, c'est le fait d'être déclaré juste. Et c'est ce qu'il souhaite aux yeux de ce capitaine qui est mort pour lui sauver la vie, mais c'est aussi aux yeux de sa femme qu'il essaie de l'entendre. Et pour aller directement au cœur de notre passage, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la mort de Jésus pour nous suffit pour nous déclarer justes? Ou est-ce qu'il va falloir, en plus de sa mort, le mériter, vivre une bonne vie? Pour être justifié devant Dieu, est-ce qu'il faut plus que la mort de Jésus pour nous, et donc le mériter ou pas? Comment être justifié devant Dieu? Dans les versets 15 et 16, là, il semble qu'on ait les paroles que Paul a mentionnées, prononcées vis-à-vis de Pierre. Quelques indices le laissent penser. D'une part, le fait qu'il parle au « nous » et il parle dans la peau de personnes, de chrétiens d'origine juive. Au verset 15, « Nous, nous sommes juifs de naissance. Nous ne sommes pas de ces pêcheurs de non-juifs. » Et en disant cela, il utilise l'ironie, la manière de parler des juifs vis-à-vis des non-juifs, ces pêcheurs. Si ce n'est pas de la condescendance qu'il utilise là, où est-ce qu'il veut en venir en utilisant leur terminologie? Mais ce qu'il veut mettre en avant, c'est qu'eux aussi, malgré leur héritage juif, eux aussi ont besoin d'être justifiés. Écoutez-le. Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être justifiés en vertu de la foi du Christ et non par les œuvres de la loi. Car personne ne sera justifié en vertu des œuvres de la loi. Vous avez remarqué la répétition, comme si on avait besoin de le réentendre, comme si c'était difficile à imprimer, à assimiler. Et les contrastes sont là aussi pour clarifier les choses. C'est comme s'il disait à Pierre, notre héritage juif, ce privilège-là, ça n'a pas suffi pour nous permettre, notre obéissance à ces lois n'a pas suffi pour nous permettre d'être justifiés. On a eu besoin de l'œuvre de Christ. Nous étions incapables d'être justifiés par l'obéissance à la loi. À quoi ressemble ce contraste entre les deux? Par les œuvres de la loi, par la foi en Christ? Ça pourrait ressembler à deux chaises. Vous voulez vous reposer, et vous reposez sur une chaise. Il va falloir choisir entre deux chaises. L'une des chaises, c'est Jésus-Christ. L'autre, c'est l'obéissance aux œuvres de la loi, votre capacité à y obéir. Et à Antioche, ce jour-là, Pierre pense pouvoir s'asseoir entre deux chaises. Il pense d'une part qu'il doit s'appuyer sur Jésus-Christ, mais aussi que les œuvres de la loi ont leur place. L'obéissance à la loi, aux lois de Moïse. Mais l'apôtre Paul montre ici qu'il va falloir choisir entre les deux. Ce n'est pas comme si on avait deux chaises côte à côte. Ces deux chaises sont dos à dos. Ce sera l'une ou ce sera l'autre. Il va falloir se positionner par rapport au fondement sur lequel on se repose. Et si on donnait une définition plus précise de la justification? C'est le fait non seulement d'être déclaré juste, mais c'est le fait de déclarer juste quelqu'un qui au départ était coupable. C'est déclarer juste quelqu'un qui était coupable. Et là, pour beaucoup, ça paraît choquant, ça paraît inacceptable, ça paraît parfois trop facile. Les croyants, ce seraient des personnes injustes auxquelles on dirait simplement « vous êtes juste ». À cause de ce que Jésus a fait, ça paraît trop facile. Et d'autres encore diraient, mais cette même idée de devoir se justifier devant Dieu, pourquoi est-ce qu'on devrait se justifier devant Dieu? Il y a quelques semaines, il y a une polémique qui a envahi les médias. Le Premier ministre Manuel Valls a fait un trajet à Berlin pour voir la finale de la Champions League. Et interrogé sur la question de ce voyage, la pertinence, en utilisant un avion qui appartient à l'État, il a affirmé que c'était aussi pour rencontrer un des responsables de la FIFA en Europe. Le problème, c'est que les médias ont commencé à fouiller et ont réalisé que ses deux fils aussi étaient dans l'avion. Les messages d'indignation et d'accusation ont commencé à pleuvoir de la part de l'opposition, mais de divers endroits aussi. Et dans un premier temps, le président et d'autres membres du parti ont voulu justifier son déplacement. Ça ne semblait pas suffire. Et l'opinion publique semblait majoritairement penser que ce n'était pas normal, ce n'était pas légitime. Et donc, en plus, en comptant sur une phrase que Manuel Valls avait prononcée sur l'importance de l'intégrité des hommes d'État, il a finalement affirmé la chose suivante. « Je suis Premier ministre, je dois être irréprochable, il y a une bourde, je ne dois pas en commettre une deuxième. » Il a souhaité verser une somme pour ses deux fils en compensation. De manière inattendue, on a entendu un membre de l'opposition, Henri Guénot, se demander pourquoi il avait dû rembourser ses billets. Voici ce qu'il écrit. « Le fait qu'il amène ses enfants, ça c'est un scandale. Nous on est chez les fous. On est chez les fous. Et je ne comprends pas qu'il ait dit « ça ne coûte rien » et qu'il ait proposé de rembourser. Rembourser quoi alors ?» Il voyait dans sa démarche quelque chose de très raisonné, de sain, vouloir prendre du temps avec ses enfants, leur accorder, leur faire plaisir. La difficulté devant laquelle on s'est trouvé et devant laquelle on se trouve, c'est qui va être la norme ? Qui va être la personne devant qui les exigences sont importantes ? Est-ce que c'est le président ? Est-ce que c'est lui-même ? Est-ce que c'est la majorité ? Est-ce que c'est le parti opposé ? Est-ce que c'est la majorité des Français ? Qui va déterminer la norme qu'il faut atteindre pour être innocenté ou déclaré juste ? Dans la Bible, le véritable juge de tous les êtres humains, quelle que soit leur position, c'est Dieu. Parce que Dieu est à l'origine de l'existence, parce qu'il connaît parfaitement notre vie, omniscient, transcendant à toute culture, à toute situation, il est le seul vrai juge. Et la Bible affirme que nous avons tous des comptes à rendre à Dieu. Quelqu'un pourrait penser que ces exigences, elles ne doivent pas être si élevées que ça. Après tout, c'est un Dieu d'amour, non ? Mais ce n'est pas simplement un Dieu d'amour. C'est aussi et en même temps un Dieu de justice. Une justice beaucoup plus droite, équitable que la nôtre. Et s'il est un Dieu d'amour, notre texte qu'il rappelle qu'il est en même temps un Dieu de justice. La profondeur de son amour et de sa justice, elle se voit précisément dans le fait que Jésus doit mourir à la croix. Ça dit combien il va loin dans l'exercice de sa justice et de son amour. Comment être déclaré juste ? Je pense que la plupart du temps, on vit chacun d'entre nous avec l'idée que c'est nous-mêmes qui sommes la norme. On estime qu'on a agi de manière juste dans telle ou telle situation. À certains moments, peut-être troublés par le regard de quelqu'un qui nous est proche ou peut-être la peur de ne pas plaire, on va vouloir se justifier devant quelqu'un d'autre. Ou alors devant la majorité de personnes qu'on a en face de nous. Mais celui devant qui nous devons répondre, c'est Dieu, seul vrai juge. Et comment est-ce qu'on va être déclaré juste devant un juge tel que lui ? Est-ce qu'on va le faire en ayant le sentiment d'avoir été à la hauteur, d'avoir mérité ce qui a été fait pour nous, vécu une bonne vie ? Là, de nouveau, ce sera très relatif selon les personnes, selon le regard. Mais devant lui, seul moyen d'être déclaré juste, c'est si Jésus-Christ est notre représentant. Si nous croyons qu'il est mort de la mort que nous méritions et qu'il nous rend au bénéfice de sa vie. On passe ensuite à la deuxième question. À quoi ressemble la vie quand on est justifié par Jésus? Jean d'Ormesson a fêté ses 90 ans cette semaine. Il y a eu pas mal d'articles qui ont parlé de lui. Il se décrit comme un agnostique catholique. Et il écrit pas mal au sujet de Dieu. Pour qu'un agnostique, il y a pas mal d'écrits à son sujet. Et l'an dernier, alors qu'il sortait de l'épreuve d'une maladie, il a eu un entretien dont on trouve la trace dans un journal de Nice Matin, où la question lui est posée: comment avez-vous vécu l'épreuve de la maladie? Voici ce qu'il répond. Je ne suis pas sûr que Dieu existe, mais s'il existe, c'est qu'il donne un sens à la maladie et au malheur. On ne peut se sauver soi-même qu'en pensant aux autres. Il faut penser comme si Dieu existait et agir comme s'il n'existait pas. Intéressant pour lui, difficile de savoir si Dieu existe. Mais s'il existe, ça donnerait du sens à la maladie, à la souffrance. Ça peut aussi dire que ça nous inspirerait à penser aux autres. Mais il conclut en disant, il faut penser comme si Dieu existait et agir comme s'il n'existait pas. Se sauver en aimant les autres. Comme si croire en son existence, ça pouvait nous faire du bien. Mais en même temps, il va falloir compter sur soi-même, en fin de compte. Pour l'apôtre Paul, il va falloir mourir à notre ancienne manière de vivre. Et il va falloir vivre dans la foi au Christ toute notre vie. Parce que c'est cela qui va vraiment nous changer. C'est de savoir ce qu'il a fait pour nous. C'est ça qui va nous permettre d'aimer. C'est le fait de savoir que nous sommes déjà sauvés par lui. Il y a plusieurs difficultés dans la compréhension des versets de cette partie. Et de nouveau, on n'a pas tous les éléments, les objections qui étaient soulevées par les judaïsants aux églises de Galatie. Mais on va essayer de voir, sur la base de ce que l'apôtre Paul écrit, qu'est-ce qu'il veut souligner. Toujours dans la perspective d'un chrétien d'origine juive, il écrit au verset 17 « Mais si, en cherchant à être justifiés dans le Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, le Christ serait alors serviteur du péché. Jamais de la vie. » Il se termine avec une parole qui peut choquer. Christ, serviteur du péché, et il ne laisse pas planer le doute, jamais de la vie, loin de là. Si on essayait d'y voir un peu plus clair, la crise à Antioche, elle a lieu en lien avec des lois alimentaires, ce qu'un juif ne pouvait pas manger, pouvait et ne pouvait pas manger. Mais durant son ministère, Jésus a déjà dit, par exemple, on le voit en Marc 7, verset 19, que désormais tous les aliments étaient purs. On l'a aussi entendu affirmer que c'est simplement par la foi en lui que quelqu'un est sauvé, pas par l'obéissance à la loi. On le voit dans Jean 3, 16, par exemple. Est-ce que ça veut dire que Jésus a dupé tout le monde? Il a trompé tout le monde? Il pousse les chrétiens d'origine juive à pécher? Loin de là, jamais de la vie. Et pour nous aider à mieux comprendre, l'apôtre Paul enchaîne avec une image, l'image d'une démolition et d'une reconstruction. La démolition, elle a eu lieu avec Jésus qui dit que ces distinctions alimentaires, elles sont rasées, elles sont enlevées. La démolition, elle a aussi lieu dans le fait que personne n'est en mesure de se justifier par lui-même devant Dieu. C'est détruit. L'apôtre Paul se place dans la peau d'un chrétien d'origine juive, un peu comme Pierre, qui voudrait reconstruire ça, remettre ça en place. Et le fait de reconstruire cela, mais c'est dire que toutes les fois où j'ai usé de liberté dans ce que j'ai mangé, c'est d'avoir péché. J'ai été transgresseur, je me suis fait transgresseur chaque fois que j'ai usé de liberté. Comment est-ce que ça pourrait s'appliquer à nous, ce genre de destruction que Christ a opérée, mais qu'on reconstruirait? Ça pourrait ressembler à la chose suivante. On vient chacun d'un certain milieu. Chacun d'entre nous, on a certaines choses auxquelles on a été attaché dans notre arrière-plan. Ça peut être sur un plan culturel, sur un plan niveau social, financier. Ça peut être dans le monde des idées, ça peut être aussi dans les capacités, dans les dons, le sport ou autre. Vous aviez l'habitude de fréquenter des personnes comme vous, qui avaient cette même passion, ce même arrière-plan. C'est avec eux que vous partagiez le plus. Mais vous êtes devenu croyant et vous avez rejoint une église avec des gens tout différents, de toute origine, de toute condition, de tout arrière-plan. Et à la limite, vous êtes prêt à vous asseoir comme ce soir à côté de personnes qui sont différentes de vous. Mais aller plus loin, partager plus fort, plus profondément ce que vous êtes, qui vous êtes, est-ce que ça sera avec les personnes qui vous ressemblent finalement? Est-ce que vous serez prêt à aller plus loin que ceux qui vous ressemblent, manger, pour reprendre l'expression ici, avec des personnes qui sont d'un tout autre arrière-plan? Sans le dire explicitement, on peut, par nos pensées, par nos actes, par nos manières d'être, de vivre, considérer l'autre comme inférieur parce qu'il n'a pas cet élément culturel, ce langage, cette manière d'être. On peut les considérer comme inférieurs et donner l'impression d'une église à deux niveaux. Ça serait reconstruire. Mais pour enfoncer le clou, l'apôtre Paul utilise au verset 19 et 20 une autre image, celle de la mort et de la vie. Verset 19, « En effet, par la loi, je suis moi-même mort pour la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Par rapport à la démolition, reconstruction, quelle est la force de cette image-là? C'est encore plus radical. La mort, la vie, mourir, renaître. Et ça permet d'exprimer l'union à Christ. Je suis crucifié avec le Christ. Il y a cette union avec lui. Et c'est aussi le Christ qui vit en moi. Il y a cette union avec lui. Et comme il le dit, il est mort à la loi, aux anciennes manières de vivre, aux principes qu'il avait auparavant, parce qu'il est mort avec Christ. Toutes ces exigences particulières, Christ est mort à la croix pour cela. Est-ce que ça a du sens de revenir à ces anciennes manières de vivre? C'est mort avec le Christ. Et dans sa conclusion, l'apôtre Paul ne mâche pas ses mots. Si je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice est par la loi, alors le Christ est mort pour rien. Il faut choisir son camp. Et l'apôtre Paul a choisi son camp. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. C'est quelque chose qui m'a été donné gratuitement. Un cadeau qu'il me suffit d'accepter. Et je retournerai à cette ancienne manière de vivre, de distinction. Alors si la justification, à l'inverse, s'opère par l'obéissance à ses principes, alors ça signifie que Christ est mort pour rien. Ça n'avait pas de valeur. Il y a bel et bien une mort à une ancienne manière de vivre. Cette ancienne manière de vivre que j'avais avant, elle est morte avec le Christ, elle est morte avec le Christ, et je vis une vie nouvelle dans l'union à Jésus. Si Pierre, l'apôtre Pierre, à ce moment-là, n'a pas vu les implications de l'Évangile, ça signifie très certainement que chacun d'entre nous ici, il y a des domaines où on ne voit pas les implications de l'Évangile. Il y a des moments où tout simplement on ne vit pas de manière droite, selon la vérité de l'Évangile. Qu'est-ce que ça pourrait être? Dans une conversation que j'ai avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que ma classe sociale, ma situation financière, mon caractère, les gens qui m'apprécient, ma famille, ma capacité à bien parler, mes expériences passées, ma santé ou mon absence de santé, l'épreuve, le fait de ne pas avoir des preuves ou parfois le fait d'avoir des preuves, est-ce que c'est cela qui fait surface comme un moyen en quelque sorte d'être plus juste qu'un autre? Quels signaux est-ce que j'envoie aux autres dans ma manière de parler, dans ma manière d'être, pour dire que oui, Christ est mort pour moi, mais j'ai un peu plus, n'est-ce pas? Est-ce que l'autre va devoir être à la hauteur de cela? Est-ce que pour qu'on l'aime suffisamment, l'autre devrait se conformer à cela? Je suis mort avec Christ à cette ancienne manière de vivre. Et ma vie présente, je la vis dans la foi au Christ. Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous ne marchons pas droit selon la vérité de l'Évangile. Et nous avons besoin, en tant qu'Église, d'être constamment rappelés de ces vérités de l'Évangile. Permets-nous, Seigneur, d'être repris les uns par les autres. Garde-nous d'un individualisme criant où chacun voudrait se justifier devant toi à sa façon. Permets-nous au contraire de réaliser que nous sommes morts à cette ancienne vie et que nous vivons dans la foi au Christ qui est mort pour nous et qui nous permet d'être déclarés justes à tes yeux. Et nous te louons pour cela, en son nom. Amen.